Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Bonjour, c'est l'Instant Sport sur 48FM, une toute première émission que vous allez retrouver chaque lundi de midi et demi à 1h30 en direct de nos studios, rediffusée le mercredi à 18h10. Une heure pour décrypter l'actualité sportive lausérienne, résultats, classements, analyses, avec autour de cette table des spécialistes du sport lausérien. Tout d'abord, pour animer cette émission, pour ceux qui ont suivi les matchs de Coupe de France de l'AFL commentés par 48FM, vous allez reconnaître cette voix, mon petit bonhomme, mon binôme aux commentaires, Laurent Julien, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Journaliste sportif à Midi Libre Monde, c'est notre spécialiste basket, Luc Respon, bonjour.
Bonjour tout le monde.
C'est le coup du mercato, on l'a arraché à d'autres radios qui voulaient l'envoyer à la messe le dimanche matin. On l'envoie, nous, sur les stades, notre spécialiste football, mais pas que, journaliste sportif à la Lozère Nouvelle, monsieur Patrick Biancone, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, et en fonction de l'actualité sportive lausérienne, les chroniqueurs changeront suivant les émissions, mis à part Laurent que l'on garde sous la main. Et on pourra retrouver autour de cette table des spécialistes volley, rugby, hand, tennis, sport motorisé et autres. Alors cette émission va se diviser en deux parties, une première consacrée aux analyses des résultats du week-end. Et dans ce cadre-là, nous aurons chaque semaine un invité qui colle bien entendu à l'actualité du week-end. Hier, à la 55e minute, il a encore marqué et qualifié son équipe pour le 6e tour de la Coupe de France. Montpellier a proposé un échange avec Lucas Barrios, mais l'AFL a refusé. Ici, pour cette première émission, le buteur de l'AFL, Fadil Gourma, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et la deuxième partie sera consacrée à l'actualité nationale. Nous reviendrons aujourd'hui sur la 10e journée de Ligue 1, sur la victoire volée à Montpellier hier soir, sur la 8e victoire d'affilée de l'OM. Et on se posera la question à savoir si l'OM peut être champion de France cette année, et bien sûr d'autres questions concernant l'actualité de cette Ligue. On va commencer donc cette émission par les résultats sportifs lausériens du week-end. On garde la Coupe de France pour la fin de cette rubrique. On commence à parler basket avec un week-end à oublier pour le BCM, le basket Cosmandois. Deux défaites avec les filles qui se déplaçaient à Saint-Christol-les-Alès et qui s'inclinent 53-44. Les féminines qui sont tout de même secondes dans la poule A en Régional 2, secondes derrière le Pays de Lunel avec deux victoires et deux défaites en quatre matchs. Un bilan équilibré, Luc ?
Oui, équilibré, mais qui pourrait être tout autre, puisque les deux défaites, notamment la première... Le premier match à domicile contre Alès, où les filles menaient dans la dernière minute avant de se faire rattraper et de perdre en prolongation. Et samedi, cette défaite contre Saint-Christol, contre une équipe qui était largement à leur portée. C'est dommage parce qu'elles pourraient avoir 4 victoires aujourd'hui. Mais sur la vue du match de samedi, c'est plutôt logique malgré tout.
Et c'était quand même une équipe amoindrie qui est partie dans le Gard.
Oui, c'est une équipe à qui il manquait 3 titulaires sur 5 du 5 majeur, ça fait beaucoup. Et notamment sans meneuse de jeu, puisque les deux meneuses étaient absentes, donc il a fallu faire avec les moyens du bord, ce qui n'est pas toujours évident pour bien poser le jeu et pour avoir une bonne cohérence, notamment au niveau de l'attaque. Après, elles ont eu les moyens de gagner,
puisqu'elles sont revenues
au score, elles sont même passées devant. Et puis après, il a peut-être manqué un peu de patron, un peu de quelqu'un qui pose le jeu, qui calme un peu tout le monde, histoire de pas permettre aux adversaires de se relancer, ce qu'elles ont fait avec des paniers à 3 points qui les ont un peu relancés et mis les lausériennes un peu la tête sous l'eau.
Alors explique-nous, il y a 2 poules de 6 et ça se joue en play-off pour la montée et pour la descente.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 poules de... C'est pareil chez les garçons, il y a 2 poules de 6 équipes. Les 2 premiers de chaque poule jouent les play-offs, donc pour la montée en division supérieure. Et les 4 autres équipes, les 4 autres équipes de chaque poule, en fait, sont divisées en 2 autres poules de 6. qui jouent des play-downs, c'est-à-dire que les deux équipes qui finissent dernière de ces deux autres poules descendront en département.
D'accord. L'an dernier, qu'est-ce qui s'était passé? Elles avaient loupé les play-offs de peu.
Alors l'année dernière, elles ont loupé les play-offs pour un match, donc le match contre Alès, qu'elles ont perdu le dernier de cette première phase, et elles ont joué la phase de maintien où elles se sont maintenues sur le dernier match aussi à Frontignan.
Luc, peut-être tu pourrais nous présenter un peu cette équipe féminine. Alors si tu les connais bien, c'est des Lozériennes.
Ça se passe comme dans beaucoup de clubs ici. En fait, nous, on recrute pas vraiment. C'est des filles qui sont arrivées là, soit certaines pour leurs études, soit pour leur boulot. Et après, il y a quelques Lozériennes. Il y a pas mal de jeunes, notamment, qui, bon, malheureusement, devraient partir à la fin de la saison puisqu'elles vont, j'espère pour elles, du moins poursuivre leurs études ailleurs. Et après, non, après, on fait en fonction, c'est un peu toujours la problématique de la fin et du début de saison, c'est-à-dire qu'on finit une saison avec trois joueuses qui s'en vont, et on sait pas trop comment les filles vont repartir, et puis finalement, il y en a trois qui arrivent d'un bon niveau, donc du coup, ça permet d'équilibrer, mais faut que tout le monde s'intègre dans le moule.
On m'a dit qu'elle venait pour le coach, les filles.
Je crois pas, non. Je suis pas certain.
Tu t'intéresses au basket, Fadil?
Oui, au basket de haut niveau surtout.
Ouais. Championnat de France, NBA,
tout ça.
La NBA, ouais, qui va reprendre bientôt avec encore plus de Français.
Voilà. Et je vous avoue que je suis de loin parce que ça passe en général très tard et, oui. Et le lendemain, il faut bosser, quoi.
Patrick Bianconne.
Non, mais ce qu'il faut dire par rapport au club mandois, c'est que bon, c'est un sport jeune. Dans notre département, le basket, bon, il n'y a pas de tradition comme le foot l'a pu être ou le rugby depuis fort longtemps. Il y a aussi, bon, Luc qui est mal placé pour le dire, mais il faut quand même aussi le rajouter, les moyens financiers du basket sans équivalent par rapport aux autres sports collectifs. Bon, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une interview de Vincent Mouton, le président du volleyball, et qui disait que le volley était dans la même situation que le basket il y a une trentaine d'années. Et donc il souhaitait au basket de suivre la même courbe que le volley, et je trouve que cette image-là est vraiment pertinente, parce que quand on voit le chemin parcouru par le volley en 30 ans pour être maintenant au troisième échelon national, bon, il y a 30 ans, le volleyball, c'était comme le basket, personne ne savait ce que c'était, personne n'y jouait, il n'y avait pas de club, et donc on peut souhaiter la même trajectoire pour le club de basket.
Déjà, il faudrait une salle adéquate. Vous jouez, je crois, au lycée Chaptal, c'est ça?
Alors, cette année, on a réussi, après d'âpres négociations, à pouvoir bénéficier du lycée Saint-Privat. Du collège Saint-Privat, pardon, de la salle du collège Saint-Privat. Ça a été compliqué parce que c'est une location qui est beaucoup plus chère, puisque en gros, pour faire court, le club paye la location de la salle, qui est remboursée ensuite sous forme de subvention. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, par la communauté de communes. Là, il a fallu, il y avait un écart de prix entre les deux structures. Bon, après ça s'est négocié, donc on a réussi à avoir le lycée Saint-Privat, le collège Saint-Privat, pardon, ce qui nous permet aussi, enfin ce qui permet au club aussi de commencer un peu à se développer, à faire parler de lui. C'est plus agréable pour les gens de venir à Saint-Privat qu'au lycée Chaptal, qui est pas dans un très très bon état. Enfin, j'imagine que si les auditeurs connaissent le lycée Chaptal, c'est pas un gymnase, y compris pour les gamins qui y sont tous les jours, qui est très agréable. Donc là, ça commence petit à petit, effectivement, comme me disait Patrick, c'est un club qui est relativement jeune, et qui jusque-là était tout seul dans le département. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a Marvejol et Lacanourgue qui est en train de se monter. Voilà, il faut prendre sa place, et effectivement, comme tu disais, financièrement, on est très très loin de d'autres clubs, mais bon, après, je pense que le résultat, l'implication et le fait d'organiser des choses permettront après de plus se développer.
Il faut faire un calendrier avec tes filles pour vendre, pour récolter de l'argent.
Je leur proposerai, oui.
Voilà, tu m'appelles, je te prends une très belle photo.
Pas de soucis.
Et également, ce gymnase, ça permet d'accueillir plus de personnes. Les matchs sont gratuits, j'imagine.
Oui, les matchs sont gratuits. Ça permet d'accueillir un peu de monde. On a eu du monde au dernier match. Alors, il y avait du monde qui venait au lycée Chaptal. Là, je pense qu'il y en a un peu plus qui viennent, puis ça permet, c'est vrai qu'il est un peu plus central, en plus, le Saint-Privat. C'est vrai que ça permet aux gens de découvrir aussi. Il y a des gens qui viennent voir un peu comment ça se passe. C'est plutôt intéressant.
Les filles se déplaçaient, donc elles reçoivent le prochain match?
Elles reçoivent dimanche à 15h. Les deux équipes reçoivent, les garçons reçoivent dimanche à 13h et les filles dimanche à 15h. Elles reçoivent Frontignan. Et les garçons, je vous avoue, je ne sais plus contre qui ils jouent.
Les garçons qui sont en régional 3 masculines, donc qui ont été repêchés cette année suite à la défection d'une équipe. Alors, oui. On peut se demander finalement si c'est un mal ou un bien. Vu que le bilan n'est pas fameux, 3 matchs, 3 défaites. Le BCM qui est dernière actuellement, qui a perdu ce week-end, donc 3e défaite, 56 à 35 à Sauvian.
À 33,
je leur ajoute 2 points, tiens. Alors à l'heure des charges, ils étaient en effectif réduit également pour ce déplacement, Luc?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que...
Il s'est pas réveillé. Non, qui était
brûlant. Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le club, en fait, a appris... Donc, la première journée de région était le 27 septembre. Et donc, le club a appris le jeudi 25, qu'il était repêché en région. Et normalement, on devait commencer en département le 1er novembre. Donc, ce qui fait que ça tronque la préparation, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui avaient prévu des trucs pendant tout le mois d'octobre, donc du coup, qui sont pas trop dispo pour les matchs. Et puis, clairement, on s'était pas préparé. Enfin, l'équipe s'était pas préparée à jouer en région. Il y a vraiment un gros niveau d'écart entre la département et la région. Donc, du coup, là, c'est pareil pour les garçons. L'objectif, c'est de se servir de cette première phase. Parce que c'est clairement pas jouer la phase de la poule de montée, c'est de se servir de cette première phase-là, quitte à avoir 0 victoire, hein, c'est pas grave, ça a aucune influence sur la suite du championnat, pour après pouvoir être prêt pour justement ce qui va être entre guillemets le vrai championnat, celui de la deuxième phase, la poule de maintien.
Tu parlais d'un championnat départemental, mais c'est pas qu'avec la Lozère, alors du coup.
Alors non, on jouait dans le Gard. Jusqu'à présent.
Oui,
jusqu'à présent, étant donné que
vous n'étiez pas préparé.
C'est Marvejols, ça faisait. Non, c'est vrai qu'on a fait 3 saisons dans le Gard. 3 saisons dans le Gard, dont la dernière où on a perdu que 2 matchs sur toute la saison.
Alors on dira pas de mal du Gard, vu qu'il y a Fadil avec nous aujourd'hui. Patrick?
D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas un projet pour que Mende évolue plutôt côté Cantal? Je sais qu'au niveau de la fédération, il y avait des discussions dans ce sens-là, et comme le NL au foot joue en Auvergne, comme le handball aussi cette année. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Il y a effectivement un projet qui est plutôt centré sur la 75, qui est plutôt de développer sur cet axe-là des clubs de basket, donc ce qui est fait avec la création de Marvejols et de la Canourgue. Donc il y a quelqu'un qui est chargé, qui est payé par la Fédé ou par le comité pour les deux comités, je crois que c'est les deux comités, donc Cantal et Lozère, pour développer sur cet axe-là et permettre à terme de créer un championnat entre guillemets à 75, notamment pour les équipes de jeunes, pour leur éviter justement de tous ces déplacements dans le Gard, dans l'Hérault. Après, concernant les seniors et concernant Mende en particulier, c'est toujours un peu le même débat, c'est toujours un peu compliqué. A priori, pour Mende, il n'est pas prévu d'évoluer dans le Cantal. C'est sûr que ça peut être plus facile au niveau des déplacements. Après, le fait de jouer en région, pour les garçons notamment, niveau des déplacements, c'est beaucoup plus facile cette saison parce que au final, on prend l'autoroute. À faire 2 heures de route pour aller à Montpellier ou pour aller à Bagnols-sur-Cèze, c'est plus facile d'aller à Montpellier en prenant l'autoroute.
Ok, le bilan de l'an dernier, rappelle-nous des garçons.
Les garçons, c'était 2 défaites sur toute la saison et donc une 2e place derrière l'équipe de Garon qui avait tout gagné forcément. Et 2 défaites, c'était contre l'équipe de Garon. Et une montée, donc, qui était en théorie en pré-région, donc, et qui finalement s'est transformée en repêchage en région.
Ok, merci Luc, on suivra l'actualité du BCM de toute façon dans cette émission.
J'espère bien.
On va parler au volleyball. Alors Laurent, avec ta grande taille, tu aurais pu faire carrière dans le volley.
Ou dans le basket.
Ou dans le basket. Mais non, tu n'es pas obligé de répondre.
Non. Ou dans le ping-pong.
Ou dans le ping-pong. Alors oui, je voulais qu'on parle de ping-pong, mais je ne comprends absolument rien au championnat de ping-pong. Donc on va attendre de s'habituer pour en parler.
Est-ce qu'il y a des championnats de ping-pong en tournant, tu sais, quand tu...
Quand tu tournes
autour de la table, t'es éliminé. Quand
oui,
je pense qu'il y a un créneau.
C'est pour l'échauffement, je crois.
Élite masculine, samedi à Pioncourt, volleyball MVL gagne difficilement, mais gagne 3-7-2 face à Brive pour le compte de la cinquième journée du championnat élite. Alors le MVL avec 8 points, donc 3 victoires, 2 défaites, et 4e sur 8, c'est comme en basket, play-off les 4 premiers, play-down les 4 derniers, pour accéder au championnat supérieur ou donc pour ne pas descendre. Alors ça risque d'être compliqué pour monter, mais deux questions. Le MVL peut-il terminer dans la première partie de tableau pour accéder aux play-offs de montée? Sinon, peut-il se maintenir, Patrick Biancone?
Alors monter, le club ne peut pas monter parce que la fédération a édicté un nouveau règlement. Et donc chaque club, avant que le championnat commence, doit dire s'il souhaite ou pas monter. Et donc le Mans de volley Lozère a répondu qu'il ne souhaitait pas monter. Bon, bien sûr, à cause du budget et des infrastructures. Donc, le MVL ne montera pas. Mais par contre, ils ont l'objectif de finir dans les 4 premiers pour justement faire ce que tu disais, les playoffs, et ainsi être assuré de se maintenir dès la fin de cette première phase. Voilà l'objectif.
Dis-moi, Patrick, tu nous dis que la Fédé demande aux équipes s'ils veulent ou pas monter. Est-ce qu'ils leur demandent aussi s'ils veulent descendre ou pas?
Non, ils en sont pas là parce que ils connaissent déjà la réponse. Mais bon, pour la petite histoire, ce règlement a été pris parce que auparavant il y avait des sanctions très fortes pour les clubs qui terminaient en position de montée et qui au final ne montaient pas. Ça allait même parfois jusqu'à une rétrogradation au niveau régional. Donc pour justement éviter d'en arriver à ces extrémités, la fédération demande aux clubs avant la saison s'ils veulent monter ou pas, et bien sûr Mende a répondu non. C'est impossible pour une ville comme Mende de jouer en Ligue B, là qui est vraiment un niveau professionnel. Bon, au niveau budgétaire, ça passe pas.
Ouais, sachant qu'il y a un vrai gros écart entre élite et Ligue B, puisque Ligue B, tous les joueurs sont professionnels. Alors, autant au niveau des infrastructures et de la salle, je pense que ça doit pouvoir passer. Compliqué, mais je pense que ça peut passer. Autant clairement au niveau de la structure salariale et financière. Même si aujourd'hui le club fait tout pour que ses joueurs soit dans des conditions quasi professionnelles, que lui s'est structuré de cette façon-là, en prévoyant le déplacement avec pas mal de petits détails qui font qu'aujourd'hui il est dans une structure qui techniquement pourrait s'apparenter à du très haut niveau.
Oui, alors le volet par rapport à l'an dernier, toi qui suis, Patrick, les équipes sont différentes?
Ben, là, cette année, bien sûr, en élite, qui était auparavant en National 1, bon, il y a, bien sûr, le niveau supérieur par rapport à l'année dernière, à la N2. Mais pour preuve, si tu regardes le classement de l'autre poule, il y a Villefranche, donc, qui a fini devant Mende, qui a été champion dans la poule de Mende l'année dernière, donc, qui est monté en élite, donc, ils sont de l'autre côté, ils n'ont pas gagné un match. Donc c'est pour dire l'écart énorme qu'il y a entre cette N2 et cette N1. Samedi soir, donc c'était Brive qui était à Piencourt. Brive, ils avaient 0 points, ils avaient que des défaites, et Mende s'en sort quasi miraculeusement, puisque Brive a eu 3 balles de match dans le quatrième set, un quatrième set qui se termine à 32-30. Donc c'est pour dire c'est vraiment compact, et toutes les équipes s'accrochent, il y a beaucoup de 3-2, et donc on voit que c'est pas évident. Mais l'objectif des 4 premiers est bien sûr encore envisageable, puisqu'ils sont dans, bien sûr, 4e. Il y a eu cette victoire à Conflans, 3 points, et Conflans 0 points du week-end précédent. Bon, ça les a fait basculer du bon côté, quoi.
Juste peut-être pour préciser que le au niveau des points dans le volet, une victoire à 3-7-0 ou 3-7-1, ça rapporte 3 points pour l'équipe qui gagne et 0 à l'adversaire. Une victoire au tie-break, donc 3-7 à 2. C'est 2 points pour l'équipe qui gagne et 1 point pour son adversaire.
D'accord, c'est question de bonus comme...
C'est un peu ça, oui.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ok, donc on suivra l'actualité du volet, également des jeunes. On sait que les juniors, je crois, l'an dernier, ont fait un beau parcours en Coupe de France.
Alors, si tu veux une petite anecdote par rapport au match de samedi, il y a un nouveau système pour entrer dans les gymnases, dans tous les gymnases de Mende, avec un badge. Et donc, il y a des personnes qui ont été bloquées à l'extérieur du gymnase parce que le badge, certainement, il y a eu un problème. Donc, il y en a certains qui ont pu rentrer, d'autres qui sont arrivés, la porte était fermée. Et bon, personne n'a pu les entendre. Et donc, il y a certaines personnes qui sont retrouvées devant la porte du gymnase et qui sont rentrées chez elles parce qu'elles n'ont pas pu pénétrer dans les gymnases.
Alors nous, au volet, au basket, il y a pas de badge, on rentre comme on veut, c'est cool.
On amène des quarts.
Faut amener des chaises, des fois.
On amène des quarts de spectateurs. Très bien. Rugby, en rugby, bon alors le RCML n'a pas joué ce week-end. Ils ont joué qu'un match, en fait. Le second match est prévu pour dimanche prochain. Alors lors de la première journée, le RCML a gagné face à l'Union Sportive Port-la-Nouvelle 26-16 en championnat honneur. Le RCML avec une victoire sur un match est quatrième avec 4 points, donc voilà, c'est ce qu'on a expliqué, c'est les bonus défensifs offensifs. Le RCML qui a autant de victoires que l'an dernier, Patrick?
Ben oui, l'année dernière, tout le monde le sait, le rugby a connu une année noire avec vraiment, comme tu as dit, une seule victoire sur l'ensemble du championnat, donc une descente qui était bien entendu assurée. Et puis comme un peu au basket, on en a parlé tout à l'heure, Le rugby a eu la chance d'être repêché dans ce championnat honneur. Donc ils évoluent au même niveau que l'année dernière. Et donc avec cette victoire pour le premier match, c'est vrai, c'est un clin d'œil, mais ils ont autant de victoires que la saison précédente. Donc c'est vraiment super. Et on sent qu'ils sont repartis sur une excellente dynamique.
D'autant qu'ils vont enchaîner 3 matchs à domicile, en fait. Cette saison, enfin là, puisqu'ils jouent le prochain, donc samedi, c'est à domicile, et le week-end d'après, c'est encore à domicile, ce qui va leur permettre, et pour une fois, la fédération a un peu réfléchi, d'avoir 3 matchs à l'extérieur aux alentours du mois de février, ce qui va éviter d'avoir des terrains durs, des matchs reportés, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'ils demandaient depuis assez longtemps, de pouvoir justement enchaîner les matchs à domicile en ce début de saison où les terrains sont plutôt bons et en bon état et bien praticables, et qui va leur permettre, s'ils continuent sur cette dynamique aussi, c'est d'enchaîner les victoires et la confiance.
Ils ont annoncé l'objectif de la saison?
Bon, je crois qu'ils veulent vraiment faire une bonne saison, voilà, tranquillement.
2-3 victoires.
Voilà, bien sûr, un peu plus, mais être bien calé dans la première partie du tableau, je pense que c'est leur objectif. Mais bon, pour en revenir à ce que disait Luc, il y a déjà eu un match de remis, puisque Mende devait recevoir Bédarieux ce week-end ou le week-end d'avant. Mais bon, là, Mende n'est pas responsable. C'est bien entendu avec les inondations qu'il y a eu dans le Gard et l'Hérault. Le comité du Languedoc avait interdit au club de l'Hérault de se déplacer. Donc c'est pour ça que Bédarieux n'est pas venu à Mende, alors que les conditions à Mende et le terrain étaient plutôt bonnes. Et d'ailleurs, Fadi pourrait le dire aussi, mais bon, rien n'aurait pu empêcher aussi de jouer ce match contre Carcassonne le week-end d'avant. Les conditions à Mende étaient sans problème pour jouer, quoi.
Ouais. Enfin, après, je pense que c'est pas au niveau des conditions, c'est au niveau de mettre des routes et de mettre des gens sur des routes, alors qu'on sait pas trop. Et juste pour 2 mots sur le rugby, c'est que l'équipe qu'ils ont battue, donc Sigean, c'est fait partie des bonnes équipes aussi du championnat. Ils en avaient pris, je sais pas combien l'année dernière chez eux. C'est plutôt encourageant pour eux.
Très bien, on suivra l'actualité également dans cette émission. Prochain match à domicile face au CA Bédarieux Pays d'Orbre à 16h dimanche prochain.
Et on leur souhaite évidemment de passer une bonne saison et de retrouver confiance en eux.
Voilà, handball, l'équipe garçon National 3 pointe à la 9e place sur 12 avec une victoire et 2 défaites. Alors Mende vient de remonter également, là on voit un niveau bien supérieur entre la pré-nationale et la National 3 auquel ce championnat... Enfin, auquel participe l'équipe senior. Garçons qui sont en poule Auvergne, quand même, donc qui est quand même peut-être un peu plus accessible que la poule sud où il y a des déplacements en Corse, vers Nice, Marseille, il y avait Monaco il y a quelques années. Enfin, ça reste difficile quand même comme apprentissage.
Alors, il faut dire que la poule dont tu parlais, la poule sud-est dans laquelle ils avaient été une année, clairement, je pense que clairement, on leur avait fait payer le fait qu'ils avaient manifesté et fait beaucoup de bruit pour qu'on leur accorde une montée qu'ils avaient acquise sur le terrain et qui leur avait été refusée. administrativement, et du coup on les avait mis dans une poule qui était géographiquement très compliquée. Là c'est vrai que cette année ils sont dans une poule donc Auvergne-Rhône-Alpes de National 3 qui est accessible pour eux et
qui est plus homogène,
qui est beaucoup plus homogène que les autres, ouais, effectivement.
Au niveau du bilan, après trois matchs, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, je pense qu'ils sont quand même déçus de ce début de saison, parce que bon, le coach n'a pas caché, il avait beaucoup d'ambition cette année en National 3. Bon, deux défaites à l'extérieur à Bourgoin et à Villeurbanne, une victoire à domicile contre un club qui a pas gagné un match. Bon, je pense qu'ils s'attendaient à autre chose en ce début de saison, mais bon, c'est que le début et il faut attendre un peu. Quoi.
Ouais, je crois que c'est surtout la victoire. Ils misaient pas mal sur la victoire à Villeurbanne, sur le match à Villeurbanne, pour justement faire le point. Bourgoin, c'est une équipe qui a joué la montée l'année dernière, qui joue la montée encore cette année. Ils misaient pas trop sur ce match-là. Ils misaient un peu plus sur Villeurbanne, qui était pour lui un gros test contre une équipe qui est une équipe réserve, hein, je pense que Villeurbanne soit en D2, D1 ou D2, je sais plus, D2, ouais. Et il misait, je pense qu'il avait plus d'ambition sur ce match-là. Bon, après ça se joue à pas grand-chose, mais je pense clairement que dans un premier temps ils vont jouer le maintien parce qu'ils sont promus, mais je pense que l'ambition du coach c'est de viser au-delà.
Si tu n'avais pas fait de football, Fadil, ça serait plutôt quoi, toi? Basket, volley, rugby, hand? Quel est le sport qui t'attire le plus?
Volley, j'aime bien, ouais.
Volley?
Ouais, j'aime bien le volley.
Comme Laurent.
Exact.
Alors, on passe en foot. On va parler de la réserve de l'AFL, Division Honneur Régionale, qui perd 5-0 face à la réserve de Béziers. Sur le classement, Laurent, un point, la réserve de l'AFL?
Bon, la réserve de l'AFL est classée malgré tout 7e, ce qui n'est pas vilain non plus, à seulement 3 points du 3e, donc il ne faut pas baisser les bras après cette petite claque là de 5-0 à domicile, un score qui ne reflète pas du tout le match.
Mais et bon, comme Montpellier-Lyon hier, tiens.
Ouais, exact.
On en reparlera dans la deuxième partie.
Voilà, donc heureusement dans cette poule, il y a quand même 3 équipes qui sont déjà larguées, donc ce qui est bien pour nous. Les équipes de Nîmes-Lassalien et Nîmes-le-Soleil-Levant et Montpellier-Petit-Bar ont que 2 points là où on en a déjà 9. Donc bon, il n'y a pas péril à la demeure, il faut juste que ces garçons reprennent confiance en eux. Quelques blessés qui vont revenir, donc on y croit, quoi. Il faut rebondir juste.
C'est vrai que la FL n'a pas été épargnée par les blessures, que ce soit une équipe première et une équipe réserve. Ouais, du coup, j'imagine que ça fait boule de neige, les blessés à une équipe première, ça dépouille un peu l'équipe réserve. Mais c'est quand même, enfin, c'est pas mal comme début de saison, je pense.
Ouais, pour l'instant, il y a une victoire, un nul et 3 défaites.
Ouais, c'est pas mal.
Bon, on peut faire mieux, mais on peut faire pire, donc il faut voir toujours.
C'est une équipe promue aussi. Hein,
C'est vrai que c'est une équipe promue, Patrick.
Non, mais ce qu'il faut dire quand même, pour une équipe réserve, évoluer NDHR, il y a beaucoup de villes et de villages du Gard et des autres départements qui vont avoir leur équipe 1 en DHR. Donc il n'y a pas si longtemps, il faut se souvenir aussi, c'est l'équipe première de l'AFL qui était en DHR. Donc il y a quand même eu une montée en puissance énorme de cette équipe réserve. Donc c'est vrai que on peut absolument pas comparer la PHA avec la DHR. Par exemple, là, ils ont joué contre Frontignan, mais il n'y a pas si longtemps, Fadi s'en souvient, c'était la première qui jouait contre Frontignan. Donc voilà, le niveau est bien sûr bien beaucoup plus élevé, mais quand on regarde la composition d'équipe de contre Béziers. Bon, il y a quand même pas mal d'éléments qui ont joué en équipe première. Bon, c'est vrai que ça fait 5-0, mais bon, Béziers, c'est quand même un club de CFA. L'équipe première est en CFA. Donc là aussi, les retombées, s'il y a 3 ou 4 joueurs de CFA qui tombent en réserve, bon, ben, voilà, oui, vous avez des fusées, vous avez des avions en face, donc.
Tandis
bon,
que, voilà. Que chez nous, à l'AFL, il y a des garçons qui jouent encore en PHEB. Il y a 2 saisons de ça, puisque l'équipe est montée de 2 divisions en 2 ans. Avec le duo de coach Moreno-Bonal, donc il faut relativiser, mais bon, je pense que ça va aller, quoi.
Fadil, un mot sur cette équipe que tu côtoies, hein, l'équipe réserve qui s'entraîne, j'imagine, avec vous ou pas?
Oui, ben, tout d'abord, c'est vrai qu'on est tombé dans une poule, ben, je pense, la plus compliquée. Donc, comme vous savez, il y a 3 poules en DHR, et là
on est tombé dans une poule où il y a quand même pas mal de réserves. Donc, comme on disait tout à l'heure avec la réserve de Béziers, où là, c'est des joueurs de CFA qui retombent et forcément, c'est plus compliqué, quoi. Mais bon, j'ai à souligner quand même que voilà, l'équipe réserve a fait deux montées consécutives, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est vrai que voilà, d'avoir une équipe en DH et une en DHR, ça fait évoluer le club, quoi.
Mais c'est du jamais vu à Lozère, hein, c'est jamais arrivé.
Oui, c'est pas donné à tous les clubs. Hein.
Ok, donc objectif, le maintien, hein, bien sûr.
Oui.
On est sur ça. On redescend de division 1 que PHA Gare Lozère, match nul de Marvejols contre l'US du Trèfle, deux buts partout. Donc Marvejols est avant-dernier du classement, avec deux nuls, deux défaites, donc ça sent pas très très bon. L'ENL, merci Laurent qui me glisse quelques mots parce que j'oublie. L'ENL, alors c'est division honneur régionale également, mais donc Auvergne cette fois-ci, on l'a expliqué un peu tout à l'heure, c'est pour se rapprocher bien sûr des clubs du Nord Lozère. Première victoire à l'extérieur pour l'ENL, 3 buts à 2 à Thiers avec 2 buts de Régis Brunel. L'ENL qui est deuxième du classement avec 4 victoires et une défaite. Je ne sais pas si vous suivez les matchs de l'ENL, Patrick.
Ben on peut dire que là aussi l'ENL repart du bon pied parce que l'année dernière saison catastrophique avec une descente à la clé. Donc quand un club descend, ben, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'inquiétude parce qu'on ne sait pas si on va repartir justement du bon pied ou si on va continuer dans cette descente aux enfers. Et puis donc là l'ENL nous rassure totalement. Et bon, ils sont bien placés deuxième et ils peuvent viser cette remontée immédiate en DH, ce qui serait une bonne chose pour ce club historique du Nord Lozère.
Oui, vous avez des liens, l'AFL et l'ENL, vous connaissez entre joueurs ou pas du tout?
Oui, quelques-uns, oui.
Donc pour le match de hier, l'ENL perdait quand même 2-0 à la 25e minute. Jusqu'au moment où Régis Brunel a été étincelant. Claque deux buts, il fait une passe décisive pour son compère Régis Dossou BT. Et donc belle victoire à Thiers. Et puis surtout, deuxième place confortée derrière Arpajon qui a tout gagné jusqu'à présent. Donc le NL est bien parti pour faire une belle saison.
Oui. Mais Ludo, tu parlais des relations entre les deux clubs. Oui. Il y a parfois des mutations entre les deux clubs. Et bon, cette année, à l'AFL, l'ancien entraîneur-joueur de l'ENL a signé à l'intersaison à l'AFL
Florent Baudin.
Donc tu vois, il y a quand même des relations.
Il y a Guillaume Julien
Guillaume Julien
qui a fait l'aller-retour.
Et quatrième aller-retour, je crois.
Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais.
Il aime bien la route.
Et puisqu'on est sur l'ENL, c'est vrai qu'ils ont recruté ce joueur-là, Régis Dossou BT, qui n'arrête pas de claquer en ce début de saison. Je crois qu'il doit être à 6 ou 7 buts.
Il a fait un triplé.
Un triplé au match précédent. Il avait fait un doublé juste avant.
C'est un phénomène, il paraît que c'est un phénomène.
Qui est arrivé là cette saison et le coach, donc ils ont changé de coach aussi, hein, puisque c'est Christophe Richaud, qui les entraîne cette année. Il me disait qu'ils étaient très 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 bien intégrés dans le groupe et dans l'équipe. Et je pense qu'il y a de quoi faire cette année avec l'ENL. Alors après, l'objectif serait plutôt de remonter, mais je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique en ce moment.
Oui, ce serait bien d'avoir un autre club en DH en Nord Lozère. Allez, l'événement de ce week-end de l'Avenir Foot Lozère, dernier représentant lozérien encore une fois en Coupe de France, s'est qualifié hier pour le 6e tour en battant Carcassonne 1-0, donc un but de Fadil à la 55e minute. L'AFL qui se déplacera à Poussan pour le 6e tour. On va revenir tout d'abord sur le match d'hier. Fadil, un match difficile?
Ouais, un match compliqué. Comme le coach nous avait prévenu, il a fallu être présent tout d'abord dans les duels. Parce qu'on savait que c'était une équipe très athlétique. Donc du coup, il a fallu répondre dans ce domaine-là, avant de penser à jouer. Et voilà, c'est ce qu'on a bien fait, je pense.
Carcassonne qui évolue en quelle division?
Un DH, dans la même poule que
Mandoua. Dans la même poule que vous les aviez rencontrés ou pas?
Pas encore. Et ils avaient, en 4 matchs de championnat, 3 victoires, 1 défaite. Donc ils étaient sur une très très bonne dynamique, en éliminant les tours d'avant, 7 et Fabregue.
Et Fabregue.
Voilà,
donc ça. Niveau CFA et CFA2, 7 qui avait l'année dernière joué quand même un 8e de finale de Coupe de France. Et donc Carcassonne les avait sortis cette année, donc gros client, quoi.
Mais ce qu'il faut dire sur Carcassonne, c'est que l'année dernière, ils étaient un peu à la ramasse, puisqu'ils se sont sauvés un peu miraculeusement dans les derniers matchs. Et là, cette année, ils font un début de saison de feu. Donc, c'est plus tout à fait la même équipe. Donc, là, 1-0, gagné contre Carcassonne, c'est une excellente performance. Mais contre une belle équipe.
Très bon résultat. De toute façon, en Coupe de France, c'est le résultat qui compte. Hein. On peut faire un beau match et perdre, ça sert à rien du tout.
Ça s'est joué sur peu de choses hier?
Oui, ouais, sur très peu de choses, parce que bon, c'est vrai que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a été un match où il y avait beaucoup, beaucoup d'engagement. Mais voilà, on a réussi à marquer à l'heure de jeu et à maintenir ce score. Et je pense que pour nous, c'est vraiment un match sur lequel il va falloir s'appuyer pour la suite, où je pense qu'on a fait notre plus beau match de la saison pour le moment.
Ok, un match référence. En plus, c'est bien parce qu'on les re-rencontre après psychologiquement. Déjà, de les avoir battus une première fois, ça peut jouer dans les confrontations en championnat aussi bien.
Bien sûr.
Poussant à l'extérieur, Poussant également, vous connaissez?
Oui, donc on les a joués il n'y a pas très longtemps.
Un beau carton.
Oui, ouais, on a gagné assez. Et encore que, voilà, on était quand même mené 1-0 à la mi-temps, il me semble.
Donc, 60e, il y avait toujours 1-0 pour Poussant. Et puis après, bon... L'effet l'a bien poussé, marqué, et puis...
C'est beau, ça.
On a poussé Poussin.
On a poussé Poussin.
Poussé Poussin.
Et puis on a gagné, quoi. Mais ce match de Coupe de France ne ressemblera certainement pas au match de championnat. Donc, il ne faut pas y aller la fleur au fusil, évidemment. Mais je pense que Stéphane saura justement...
qui saura
le dire à ses joueurs.
Et ce qui est marrant, c'est que normalement, au tirage au sort, vous receviez... Hein.
Oui.
Le tirage au sort, c'était AFL Poussant. Oui, après, il y a des trucs un peu obscurs.
C'est compliqué. Ouais, comme ils ont.
Comme ils sont allés à l'extérieur ce tour-là, donc ils se sont qualifiés à Argelès. Et donc, comme l'AFL a reçu, automatiquement, c'est Poussant qui reçoit parce qu'ils ont joué à l'extérieur dimanche.
Donc, c'est bien de faire des tirages au sort qui ne servent à rien finalement.
Oui, complètement. Objectif de gagner, ça sera différent, ça sera à l'extérieur. Poussant, ils étaient avec vous l'an dernier déjà ou pas en championnat?
Ils viennent de monter.
Non, ils viennent de monter, non.
Ah, d'accord. Voilà. Et actuellement, Laurent, toi qui t'intéresses au classement, Poussant, ils ont fait quoi en championnat cette année?
Oui, alors écoute, je te remercie.
Ils ont perdu 5
derniers. Ils sont derniers, ils n'ont pas gagné un match.
Ils sont dans les derniers, voilà.
Ah, ils n'ont pas gagné un match. Attention à la suffisance, hein, Fabien, il ne faut pas...
Ouais, voilà, comme on sait, comme Lolo l'a dit tout à l'heure, un match de Coupe de France, c'est toujours particulier. Et si on met pas ce qu'il faut dès le début du match, on peut être inquiété comme on a pu l'être en championnat en étant mené longuement face à cette équipe.
D'autant que j'imagine qu'eux, ils auront pas cherché très loin pour se motiver, eu égard au dernier match contre
vous. Exactement.
Mais ce que tu peux préciser, Ludo, c'est que ce sixième tour, donc c'est le dernier tour organisé par la Ligue Languedoc-Roussillon. Donc si l'AFL se qualifie, on passe bien sûr au septième tour. Et le septième tour, c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et donc là, après, c'est par zone géographique, mais c'est bien sûr élargi. Et on peut être avec le Sud-Est ou avec Rhône-Alpes, etc., etc. Donc là, on franchit le niveau régional pour là avoir ces belles affiches qui nous ont fait tant rêver ces dernières saisons.
Ouais, un dernier match aller et après encore quelques DH quand même. On va patienter. Les Ligue 1, c'est combien de dixième tour?
32e.
C'est en janvier. Donc,
encore
en
7e et 8e et après c'est 32e. Un 32e.
On va essayer de passer le 6e pour.
Ouais, il faut gagner encore 3 matchs pour espérer avoir une Ligue 1.
Je m'emballe.
Ludo aimerait bien commenter un match de son club de cœur, le PSG. Donc. Oui. Faut attendre un petit peu, quoi.
C'est lui qui supporte le PSG. Boule, quelle horreur.
Juste, vous avez récupéré tout le monde, Fadil, au niveau des blessés, ou il manque encore un peu?
Non,
un
pas peu tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure par rapport à la réserve, on a encore quelques blessés. Et on espère les récupérer prochainement. Donc, déjà cette semaine, il y en a deux qui devraient rentrer. Donc, petit à petit, on récupère tout le monde et.
Fadil, sache que si tu peux faire passer un message à Stéphane Saura, moi je suis dispo.
Laurent est dispo.
Je peux venir dépanner. Mais,
tu sais qu'il a failli t'appeler hier parce que j'ai failli pas jouer.
Non, mais c'est ça. Faut pas qu'il hésite, quoi.
Concernant le championnat, on en est où au niveau du classement, Patrick, toi qui suis?
Bon, Patrick, c'est Monsieur Championnat.
Non, mais c'est vrai que bon, au niveau championnat, bon, carte pleine à domicile avec de vraiment énormes victoires contre Argelès et contre Poussin. Après, ça, c'est plus compliqué à l'extérieur avec cette défaite à Lattes qui, bon, qui fait du mal, hein, il faut quand même le dire. Il y a eu ce match au premier match, bon, qui était par contre pas trop mauvais à Aigues-Mortes, je crois. Hein, voilà, donc il y a aussi une équipe qui va jouer les premiers rôles. Mais bon, il faut savoir de quel côté on analyse. Si tu analyses le fait que tu veux monter un CFA 2, bon, ben, si il y a que le premier qui va monter, donc ça veut dire qu'il faut que tu perdes un maximum 2-3 matchs sur toute la saison. Donc là, déjà, tu en as déjà perdu un. Bon, c'est sûr qu'après, si tu te dis, bon, je joue le maintien, bon, si je joue le maintien, t'es déjà tranquille jusqu'à la fin de la saison. Mais on sait que l'ambition est bien un jour d'évoluer en CFA 2 et pourquoi pas dès la saison prochaine. Donc c'est vrai que cette défaite à Lattes, ben, elle fait un peu tâche. Et bon, il va falloir serrer les dents parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas beaucoup de jokers si tu veux monter.
C'est le premier qui monte ou il y a moyen que le deuxième soit repêché?
Avant, il y avait des sortes de barrages entre tous les seconds des 22 ligues. Ça a été supprimé parce qu'il y avait souvent des incidents vraiment très graves entre au cours de ces matchs, aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Donc maintenant, c'est supprimé. Et donc, il n'y a vraiment que le premier qui monte. Donc, voilà, il faut finir premier.
Donc là, au classement, Fadil, vous êtes classé combien, à peu près?
5-6e.
Voilà, 6e, ouais. 6e, il me semble.
C'est resserré, ouais.
Ouais, c'est resserré. Et voilà, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est vrai que ben, on a pris un peu de retard. Et voilà, si on veut avoir de l'ambition, il va falloir engranger les points et faire le point au mois de janvier.
Parce que tu as des clubs déjà comme Paulhan, comme fait carton plein, donc ils sont en 4 matchs, 4 victoires. Bon, toi, tu as perdu un et fait un match nul. Donc, tu as déjà 3-4 points de retard. Et bon, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas s'endormir parce que, bon, il y a des équipes qui n'attendent pas, bien entendu. Mais un club comme Paulhan, ben, eux aussi, ils n'ont qu'une idée depuis 2-3 ans, c'est de monter un CFA 2. Et donc voilà, il faut se rendre compte que cette poule en Languedoc, il y a des clubs, c'est du très très haut niveau. Hein. Moi, je vois pas mal de matchs aussi. Bon, il faut voir les équipes. Hein. Bon, il y a vraiment des. Je me souviens l'année dernière à Narbonne, il y avait un trio d'attaquants, c'était hallucinant. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment du très haut niveau.
Rien n'est joué, on sait que ça peut très vite changer aussi, hein, il suffit d'un ou deux blessés, ouais, des intempéries à Paulhan et hop, on les voit plus sous l'eau. Ensuite, on va suivre l'actualité. On va faire une pause musicale, on continue à parler football, on va parler de Ligue 1, les résultats, classement, analyse, les faits marquants du week-end. Une petite pause musicale, on revient tout de suite. Ladies and gentlemen, introducing you.
Partline Drive, and like always, I'm kicking it live. Gonna call the fellas to see if they's with this. Gonna get down with the sound of Big Breakfast. Start off the day with some Bob Marley. Back to the woods for that fresh parlay. Maybe even spark a little Nicky J. And then it's off to Center City in the fastest way. Cause if you gotta get downtown real quick, then the only way to go is I-76. Unless of course you wanna take that scenic view, then the East or West River Drive is right for you. But if you ain't got any time to lose, put the pedal to the metal for that voyage cruise. And get on down to I-76. Cause in 1996 there ain't no tricks in the mix.
Back in 1982, man, it was real cool in school. If we got good grades, like straight up A's, our parents would take us to a 76 game.
I got my game and there ain't no shame.
Big shots of Mo Cheeks and Moses Malone. Julius Erba called Philly is home. Bobby Jones, Darryl Dawkins, and Tony Sinkin' Threes. Rocky Balboa will come from South Philly. But if you wanna make it on time to the show, there's only one road that you really have to know. So get to Fishtown without all that job. I suggest that you drive on I-95. Wanna get downtown but feeling a fix, get on that road they call 676. The most expensive piece of interstate they ever made. The fellas ain't famous but they got good game.
Get in on 76er. This Larry Bird, get it lost. 76ers, Charles Barkley, this Larry Bird.
Shoots
the middleman, now disguised as the jewel. The Valentine smile to the Catman floor. Lounging leather seats, the 70 shit getting ice. Cadillac, DBL, Christopher, pull the heist. Expressway expression, soda pop is pressing. Up another piece of baby, a painted session. Guessing the answer to the question. All the Philly fellas living life is our profession. Destined to escape a la Spector. Our wilderness, yeah, prep, jet a bull. Friday night, rap, Broncos and pepper shakers in the city. I start up, show eye the skyscraper. Well, the roof. Man, it's I 76. I'm tracking Otto Schubert, singer Davy Quickness. Lily of the Valley, love a lingam every day. I'm giving praise from High Hill Juice to Philly.
Cause if you gotta get downtown real quick, then the only way to go is I 76. Unless, of course, you wanna take that scenic view, then the East and West River Drive is right for you. But homes, you ain't got any time to lose. Put the pedal to the metal for the voyage group and get on down to I 76. Cause in 1996, there ain't no tricks in the mix.
Get in low. 76ers, Charles Barkley, this Larry Bird.
Allez, c'est reparti pour cette seconde partie d'émission. Merci. L'actualité sportive nationale et internationale. Donc voilà, chaque semaine, on va parler d'une actualité. Tu laisses mes fiches, Luc. Une actualité nationale internationale qui va concerner tous les sports. Donc aujourd'hui, pour cette première Ligue 1, on va commencer par les résultats et le classement. Donc les résultats, Lens 1, Paris 3, Lorient 0, Saint-Etienne 1. Victoire de Guingamp à Lille, 2 buts à 1. Metz et Rennes, c'est étonnant, c'est un 0-0. Monaco gagne 2-0 contre Evian, Tonon-Gaillard. Nantes, Reims, Saint-Partout. Nice 0, Bastia 1. Hier, Marseille gagne 2-0 face à Toulouse. Bordeaux, Caen 1 partout. Et Lyon 5, Montpellier 1. Le classement, Laurent?
Oui, alors c'est avec un grand plaisir que je vous dis que Marseille est largement, mais alors... ça se compte même plus le point d'avance qu'il y en a avec 25 points. 7 points d'avance sur le PSG,
ridicule,
qui est ex aequo 3ème avec Bordeaux, suivent Lyon, Saint-Etienne qui sont ex aequo aussi, Nantes, Metz, Lille, Toulouse, Monaco, Montpellier qui est classé 11ème, et donc en bas de classement Nice, Rennes, Reims, Lorient et Bastia qui se tiennent avec Evian, et pour finir Caen, Guingamp et Lens qui sont dans la charrue.
Alors, on a battu ce week-end, c'était à noter, le nombre de spectateurs présents dans les stades en Ligue 1. 30 000 spectateurs de moyenne. C'est énorme, ouais. Patrick, hein, pour...
Oui, ouais, ça s'explique parce qu'il y a eu un match au Stade de France de Lens Paris, donc ça a dépassé les 70 000. Et puis, avec le nouveau vélodrome, record battu, qui était de 58 000 lors de ce match de coupe UEFA contre Newcastle, 2-0, avec tout le monde s'en souvient, un Drogba complètement en feu. Un match inoubliable pour tous supporters marseillais. Donc c'était 58 000, et là avec le nouveau vélodrome, 61 800 ouais. Et quelques. Donc voilà, contre Toulouse, une ambiance incroyable. Voilà, le vélodrome, c'est vrai, paraît complètement hallucinant avec ce toit. Et je pense que même toi, Ludo, qui est un supporter montpellierien, il faudra qu'on t'amène là-bas, parce que je pense que ça doit valoir le déplacement.
C'est-à-dire que la paillette, c'est hallucinant aussi en ce moment, mais pas pour les mêmes raisons.
Ouais. Oui, c'est vrai. Et Montpellier qui a déjà joué, malheureusement, à l'OM, on se rappelle de ce très beau match.
Mais d'ailleurs, rappelle-moi le score. On a décidé de ne plus perdre de match suite à ce match-là, et c'est bien parti, donc je pense qu'on peut tenir jusqu'à la fin de la saison.
Fadil, tu supportes une équipe en Ligue 1?
D'accord. Ouais, le Montpellier Hérault, bien sûr. Nos chers voisins.
Très bon choix. Non, il faut dire, j'ai un peu tendu la perche à Fadil avec une.
Légèrement influencé, ouais.
Non, tu supporterais quelle équipe, toi, en Ligue 1
Après, moi, j'aime bien les équipes qui jouent. J'ai pas spécialement d'équipe.
T'as pas d'équipe de cœur?
Ouais, j'aime bien Marseille, bien sûr. Surtout à l'heure actuelle où.
C'est évident.
Voilà, c'est quand même joli ce qu'ils montrent pour les amateurs de football comme nous. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire cette année avec la. Comme on le disait tout à l'heure. Quasiment la même équipe que l'an passé, quoi.
Et est-ce que tu as un joueur qui t'a toujours fait vibrer? Tu avais le poster en ta chambre.
Morel.
Qui joue en Ligue 1 là?
Ouais, non, ou qui joue plus, ou international.
Moi, j'aime bien Cristiano Ronaldo. Je suis assez fan de ce joueur.
Oui, c'est un bon choix. Et au niveau de
Val. 15 buts, hein, 6 ou 7 matchs.
6 matchs.
6 matchs, voilà, ouais. Donc c'est vrai que la moyenne est pas mauvaise avant justement le Classico, Real de Madrid-Barça, le week-end prochain.
Pas mal, ouais. Avec le retour de Suarez, non?
Oui, premier match de Suarez, suspension terminée.
Qui va-t-il mordre?
De très beaux matchs, un beau Lyon-Marseille.
Dimanche prochain aussi.
Dimanche prochain. On va revenir justement sur les matchs qui sont déroulés hier. On va commencer par, bien sûr, Marseille. La question, Patrick, Marseille peut-il être champion cette année?
Franchement, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe. Donc, c'est quand même, au niveau de la récupération, c'est un plus énorme, surtout que Bielsa fait très peu tourner. Après, un point positif aussi, il faudrait que cette CAN soit annulée. Bon, c'est sûr que pour les raisons, on va pas s'en réjouir, parce que c'est quand même une épidémie terrible qui est actuellement sur le continent africain. Mais c'est vrai que sportivement, pour l'OM, si cette CAN pouvait être reportée, ça serait vraiment l'idéal, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés.
Il perd de qui?
Nkoulou, Romao, Djadjedje, Ayou, ouais. Ça fait déjà 4. Donc, c'est déjà pas mal. Quoi.
Barada,
ouais. Donc, c'est quand même pas neutre pour... Pour un groupe comme l'OM, voilà.
Le problème à Marseille, c'est que le jour où Bielsa devra faire des changements, parce qu'il y aura des blessés, c'est évident, ou des suspendus, on ne sait pas encore quelle tête ça va avoir dans le jeu, dans tout.
Oui, parce que là, mis à part Alessandrini qui remplace Thauvin habituellement en fin de match, il n'y a pas...
C'est vrai.
Oui, après, moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont pris une autre dimension et on sent qu'il y a un changement. Morel, mais même un garçon comme Romao, je crois.
Mendy.
Je pense que...
Vous oubliez Gignac aussi.
Et Gignac, ouais. Oui, non, mais après Gignac.
Imbula, on peut dire Imbula.
L'an dernier, là, il était quand même pas mal.
Après Gignac, c'était quand même et c'est quand même un super joueur, même s'il a connu des hauts et des bas. Mais je pense qu'il y a un vrai effet Bielsa.
Il est lourd. T'as vu, Patrick?
Ouais. Non, mais quand on voit les prestations d'Imbula et alors que semaine après semaine, il y a quand même Willy Sagnol, l'entraîneur de Bordeaux, qui rate pas une interview pour descendre Imbula, il le cite jamais, mais tout le monde comprend que c'est Imbula qui vise, parce que il a écarté de l'équipe espoir pendant un an, et quand on voit le match qu'il fait contre Toulouse, la perforation, on dirait Patrick Vieira à 20-21 ans, voilà, donc.
Après, je pense que c'est pas des raisons sportives et techniques qui l'ont fait écarter Imbula de...
Oui, c'est clair. Mais bon, quand on va jouer Imbula en espoir, les deux matchs contre la Suède, et quand on va jouer à Marseille, c'est sûr que c'est pas le même joueur, donc il doit bien quand même avoir une façon de le coacher, de le manager, de le préparer, de le mettre en condition sur le terrain. Et bon, ça vient aussi bien du staff que du coach, à mon avis.
On est tous d'accord que pour expliquer la métamorphose de Marseille, Bielsa, point.
Forcément, on est obligé de le dire. En plus, les joueurs, ouais. Chaque fois qu'on me pose la question, chaque joueur dit, pas plus tard que l'autre fois, Nkoulou dit, Bielsa, il me prend demi-heure tout seul, et il m'explique, alors que Nkoulou, quand même, il y a 2 ans, tout le monde disait que c'était quasiment le meilleur au niveau au moins de Thiago Silva. Et donc, l'année dernière, il était catastrophique. Et là, cette année, il revient à son meilleur niveau. Il explique ça parce que Bielsa, entraînement, demi-heure, en tête-à-tête. Ils sont que tous les deux. Et il lui dit, il faut que tu te positionnes là, que tu anticipes là, etc., etc.
Bon. Il est ancien défenseur, voilà. D'ailleurs, Marcelo Bielsa.
C'est ce que j'ai fait ce matin avec Laurent. En tête à tête, une demi-heure, faut que tu te positionnes là, faut que tu interviennes là. Je vais poser la question différemment. Fadil, est-ce que le Paris Saint-Germain peut rattraper Marseille?
On peut dire oui aussi.
J'entendais certains spécialistes hier qui disaient que, qu'avec 25 points à, je crois, 10 journées, c'est ça?
C'est ça.
Ben, à chaque fois, l'équipe a été championne.
Ah, bah,
donc, voilà. C'est bon. Moi, en tout cas, si j'avais un choix à faire, bien sûr, je préférais que Marseille soit champion. Mais je pense que Paris, voilà, n'est pas mort et que, voilà, le nombre de joueurs de qualité qu'ils ont, ils peuvent rattraper le retard.
Puis les gros matchs arrivent pour Marseille, c'est vrai, il faut le reconnaître. Lyon, Monaco, Paris, Nantes, Bordeaux, donc tout ça, c'est à jouer.
C'est vrai qu'on n'a pas vu encore Marseille face à de grosses équipes, mis à part Montpellier, Marseille a perdu, donc il faudrait voir par la suite ce que ça va donner.
Après, la question aussi est de savoir, c'est vrai que Bielsa a une méthode qui visiblement est très très éprouvante, que ce soit physiquement ou mentalement pour les joueurs.
Oui,
Faut voir sur le long terme. Là, pour l'instant, ils sont sur 8 victoires d'affilée. Comment ils vont réagir quand ils vont perdre, s'ils perdent.
Mais Bielsa a une technique là qui vient de sortir là qu'on connaissait pas, c'est la technique de la tasse à café.
Je sais pas si
vous la connaissez, c'est quelque chose. Il faudra la soumettre à Stéphane Sora d'ailleurs.
Ouais, il faudra mettre une glacière.
Que se passera-t-il si quelqu'un pique la glacière de Marcio Bielsa?
Mais oui.
Par contre, c'est. Mais enfin après, faut c'est quand même fou. Hein. Moi, j'ai lu. Je sais pas si tu avais lu, Patrick. Il y a dans le magazine SoFoot, il y avait un grand portrait là, de Marcio Bielsa. Et c'est un type qui ne laisse absolument rien au hasard.
Ouais. J'ai suivi tes conseils puisque tu m'en avais parlé. Donc j'ai lu avec attention ces pages. Et c'est vrai que bon, on sent qu'il a ce personnage indifférent. Et bon, ça fait quand même, moi je dirais presque 10 ans qu'on n'a pas vu Marseille jouer comme ça, parce que Marseille gagne, mais en plus Marseille produit un jeu qui vraiment, on prend du plaisir. Et le deuxième but contre Toulouse, ça part du côté droit, il y a des redoublements de passes entre 3-4 joueurs, et ça arrive à l'aile opposée, centre, en retrait et but. Donc ça, ces genres d'actions, on le voyait pas, et même avec Deschamps, quand on a été champion de France, donc il y a pas si longtemps que ça, on voyait pas d'aussi belles actions sur le terrain. On gagnait 1-0, mais bon, à l'arraché. Mais il y avait pas de telles prestations qu'on voit depuis le début de la saison. C'est vraiment génial.
C'est vrai aussi qu'il y a du beau jeu, et on en parle un peu moins, mais tu as parlé tout à l'heure de Willy Sagnol qui est arrivé à Bordeaux, qui a transfiguré aussi cette équipe de Bordeaux.
Oui,
c'est par vrai, rapport c'est à ce vrai. Qu'on a vu les saisons
précédentes. Mais Bordeaux qui commence un peu à rentrer dans le rang, match nul contre Caen. Parmi les autres résultats marquants, Guingamp qui gagne à Lille. Alors Lille, ça va plus, hein. À moins que Guingamp ça aille très bien, mais l'un ou l'autre. Guingamp qui gagne à Lille, beau match de Saint-Etienne aussi à l'extérieur qui s'impose à Lorient. Et le match d'hier, Lyon qui en met 5 à Montpellier avec une attaque de feu, quoi.
La résurrection de Gourcuff.
Gourcuff, Lacazette, Fakir, c'est...
Fekir,
oui, pas Fakir. Et il m'excusera s'il nous écoute. C'est très très fort, ouais. C'est très fort. Et Monaco qui gagne, ça y est, petit bras, mais qui gagne 2-0, qui remonte.
Ouais, un pénalty compliqué au bout de 40 secondes de jeu. Et après, un but gag... du gardien danois, je crois qu'il est danois, d'Evian Tonon. Il se fait lober sur une grande chandelle. Le défenseur Carvalho dégage au hasard. Il mesure 1m90, plus les bras. Il se fait lober. Et l'attaquant, après, n'a plus qu'à pousser un but de renard que Fadigol n'aurait pas renié, je pense.
Là, on voit que Marseille a quand même 7 points d'avance, mais après, il y a quand même 7 équipes qui se tiennent à 3 points, donc on ne peut pas trop tirer d'enseignement. Je sais que nos auditeurs lausériens sont... fan de Saint-Etienne qui fait quand même une belle saison là,
pour l'instant,
même 2-3 belles saisons.
Après Saint-Etienne aussi, hein, on parle d'entraîneur.
Mais il faut voir Saint-Etienne comment ils vont jouer, gérer avec la Coupe d'Europe aussi.
Ouais, alors là pour l'instant c'est pas super bien parti. Je sais pas si la Coupe d'Europe va passer l'hiver à Saint-Etienne. Mais enfin, toujours est-il que se retrouver là à un point du PSG qui est deuxième, c'est un beau départ quand même aussi.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment 5-6 équipes là cette année qui produisent vraiment du beau jeu et ça donne vraiment des matchs spectaculaires.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde dans les stades, hormis bien sûr cet épisode de Stade de France avec 70 000 qui fausse un peu la moyenne. Mais bon, il y a quand même du monde dans les stades, je pense, parce que justement il y a des équipes qui ont compris que le football c'est aussi un spectacle pour les gens qui payent leur place et qui viennent voir les matchs. Quoi.
Alors en parlant de stade, puisque Montpellier a subi des inondations, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vont jouer maintenant?
Ils vont jouer au stade de rugby.
Au stade de rugby, à l'Altrad Stadium.
On attend la fédération les poteaux,
alors ça aussi, c'est quand même...
Alors ça peut être bien pour Montpellier. Hein.
Pour lui, Casbario, ça peut être
pas mal. Il faut quand même souligner qu'il y avait un petit club d'un petit village de 700 habitants qui a quand même fini deuxième de national, Luzenac, qui devait monter en Ligue 2.
C'est un scandale, ça.
Et donc, ils avaient proposé de jouer à Toulouse, au stade de rugby, quand même, Toulouse, qui domine le rugby français depuis plus de 10 ans. Et donc, on a appris quand même que le stade qui accueille la meilleure équipe de ces 10 dernières années en rugby n'était pas homologué.
Et qui accueille des matchs de Coupe d'Europe.
Voilà, il n'était pas homologué pour le football. Et alors que là, en 15 jours, on va homologuer le stade de rugby de Montpellier. Tant mieux pour Montpellier, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même hallucinant qu'on ait recalé ce club de Luzenac, et c'est vraiment, à mon avis, un scandale.
C'est vrai qu'on trouve des excuses beaucoup plus facilement à certains clubs qu'à d'autres.
Voilà. En particulier à Lens aussi, il faut le dire.
Oui,
Lens, qui a pas parce de stade. Que Lens qui non seulement n'a pas de stade, mais qui a une situation financière catastrophique et qui a eu quand même beaucoup de décisions en sa faveur. Et beaucoup de clubs auraient aimé avoir ce genre de décision. Quoi.
Il manque 4 millions quand même. Hein.
Oui.
La DNCG qui est généralement assez tatillonne, 4 millions, là, elle s'est un peu assise dessus.
Ouais, c'est oui. Vrai.
Alors ça pourra faire partie d'un thème de cette émission, ouais. Il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, il y a beaucoup à dire sur cette journée, mais sur l'arbitrage, les débordements qu'il y a eu à Nice, peut-être le match d'hier et cette attaque de feu de Lyon. On va passer très rapidement sur ces points, parce que l'émission touche à sa fin. L'arbitrage en question, on est d'accord, du grand n'importe quoi.
Ce qui est encore plus regrettable pour nous ici dans notre département, c'est que donc l'arbitre qui est vraiment montré du doigt de ce match de Lens PSG, bon ben c'est un gardois, Nicolas Rémy.
Comme
donc,
par hasard.
Voilà, c'est un fleuron de l'arbitrage du Sud. Et donc là, il est en train de se faire détruire. Dimanche, il y a eu un article dans l'équipe qui était consacré avec des attaques personnelles. Vraiment très grave. Là, ça n'a même plus rien à voir avec le match en lui-même. Et bon, on imagine qu'il doit être vraiment mal dans sa tête. Et bon, c'est vrai que c'est ça, c'est regrettable. Quoi.
Après, enfin, pour moi, c'est un petit peu le bouc émissaire de l'arbitrage français, parce que c'est vrai que sur le coup, c'est pas un grand arbitrage. Alors, on va vous dire qu'il a appliqué la règle, etc. Maintenant, c'est pas le seul à passer à travers. Il y a beaucoup d'arbitres sont passés à travers cette saison. Et si on n'a pas d'arbitres qui sont présents sur les grands événements européens et internationaux, c'est peut-être pas un hasard non plus.
Oui, exactement. L'arbitrage en question. On essaiera d'inviter dans cette émission un arbitre, justement,
tout à fait, ouais.
pour discuter avec lui de ça.
Excellente idée. Ouais.
Ouais. Un mot sur les
débats. Déjà un délégué, donc.
Voilà.
Superviseur d'arbitre.
Pareil, un mot sur les débordements à Nice. On est d'accord, c'est du grand n'importe quoi.
Ouais. Non, là aussi, bon, c'est vrai que
pour un drapeau.
Voilà. Bon, ouais. après, c'est pas malin. Bon, c'est vrai que. Bon, on a quand même le droit de sortir un drapeau sans que ça provoque cela.
Ouais.
Mais aussi, quand on connaît le contexte entre Nice et Bastia, je sais pas, c'était vraiment très malin de la part joueur de sortir ce drapeau-là, quoi.
Il a dit, à ce moment-là. Il a dit que c'était peut-être pas très malin de sa part. Après, comme il a dit, quand Usain Bolt gagne une course, et fait le tour aux États-Unis et fait le tour du terrain avec le drapeau jamaïcain. Non, mais après, voilà.
Moi, je pense que c'est vraiment donner des excuses à ceux qui ont fait ça.
Ouais.
Donc, tout le monde a le droit de sortir un drapeau, bien sûr. Mm-hmm. Voilà. On a le droit de revendiquer
d'ailleurs,
les couleurs.
Dimanche, Fadil a sorti le drapeau du Gévaudan. Personne n'a rien dit. Carcassonne.
Non, mais pourquoi pas, alors, à ce moment-là, pourquoi pas interdire tous les drapeaux bretons dans les stades?
Oui, c'est pour ça que.
C'est vrai que c'est.
Ou interdire Nolwenn qui chante en.
Oui, mais ça.
Moto.
C'est fait, ça, non?
Non, c'est pas fait.
Ah, merde.
Allez, vite fait un mot sur pour ceux qui ont vu le match. Donc l'attaque de Lyon, on parlait énorme. Fadil, t'as vu le match ou pas?
Non, j'ai pas vu le match. Ouais, j'étais plutôt sur la 6 hier. Bonjour à ma femme d'ailleurs. Et du coup, ouais. Mais par contre, voilà, une attaque phénoménale. En ce moment, ils sont en pleine bourre avec la Lacazette, ouais, qui est plutôt énorme en ce moment.
Donc sur ce match de hier, est-ce que c'est Lyon qui a une super attaque ou est-ce que c'est Montpellier qui a quelques soucis défensifs?
Un peu des deux.
Je pense qu'il y a d'ailleurs un peu des deux dans ce cas-là, mais Montpellier a pas démérité, ouais, mais Lyon était vraiment au-dessus.
Ouais, Lyon était au-dessus.
Ça joue vraiment bien. Ouais.
Et bon, c'est vrai qu'après on peut aimer ou ne pas aimer Aulas, mais il faut reconnaître, bon, il y a quand même une chute au niveau de son budget depuis plusieurs saisons, et bon, malgré cela, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu avec son centre de formation qui est vraiment exceptionnel. Quand on voit le centre de formation de Marseille, il faut reconnaître, par rapport au centre de formation de Lyon, c'est le jour et la nuit. Et ouais, bon, voilà.
T'as un centre de formation qui est champion de CFA quasiment tous les ans et un autre qui était en DH il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai.
Alors, cette émission va être diffusée mercredi soir. On va faire un petit point, un pronostic à Ligue des Champions cette semaine. On commence par quoi? Mardi, c'est Paris, Laurent?
Oui, c'est Paris qui joue à l'AOPEL Nicosie.
Allez, pronostic, Fadil, tu commences.
Allez, Paris 3-0.
3-0.
2-0 pour Paris.
2-0 Paris aussi.
Non, il faut être réaliste, 0-0.
0-0, allez, on va balancer un 1-0 pour Paris. Pour moi. Et Monaco, qui se déplace?
Non, qui reçoit Benfica mercredi.
Ah, c'est plus serré, ça.
Ouais, je vois Monaco en difficulté, ouais, face à Benfica. Donc, j'irai 2-0 pour Benfica.
Moi, j'ai confiance en Monaco en Coupe d'Europe, parce qu'ils sont surprenants. Ils ont fait match nul en Russie, ils ont battu Leverkusen, même si c'est vrai que Leverkusen a raté des buts quasiment tout fait. Mais bon, Benfica, Ouais, peut-être tu as raison, Fadi, mais je vais voir moins bon que les années précédentes. Donc, j'y dirais 2-1 pour Monaco.
Bah, je suis un peu comme Patrick, je trouve que Benfica, c'est pas l'équipe conquérante qui a été finaliste de la Coupe d'Europe, là. Et je trouve que c'est un peu moins bien, alors que Monaco est petit à petit en train de trouver un peu son rythme et son style. Donc, moi, j'irais 1-0 pour Monaco.
Mais Monaco a peut-être tout son style, mais marque très peu de buts. Donc, en Coupe d'Europe, encore moins. Alors, je joue le 1-0.
Il récupère Berbatov, non, je crois.
Ouais, peut-être.
Ouais, il récupère Berbatov.
Enfin, il joue comme un petit but, hein, c'est tout.
Ils ont récupéré du monde en attaque. Ils ont Traoré qui est rentré aussi, Lassina Traoré.
2m03
qui était prêté à Everton l'année dernière.
Et je pense. Basket club d'Everton.
Exactement.
Ça ferait un beau pivot.
Justement, c'est bien parce que ça nous ferait du bien, ouais.
Allez, parfait, moi je vous suis, 1-0 pour Monaco aussi. On va finir avec ces paris sur le championnat de Ligue 1. On réécoutera cette émission en juin, après mai. J'aimerais savoir pour vous les trois premiers du classement et après, dans le désordre, les trois qui vont descendre. Là, il y a le classement, Fadil, pour t'aider. Trois premiers et les trois qui descendent, Fadil. Premier, champion.
Alors, je vois Marseille.
Marseille champion.
Cette année. Donc, PSG en 2. Et Lyon en 3.
Ok. Ouais. En descente, les trois clubs mélangés, on s'en fiche des places qui descendent.
Ouais. Guingamp, Lens et Evian.
Guingamp, ouais. Lens, Evian. Voilà. Patrick, champion de Paris.
Champion Marseille, j'espère, de tout cœur. Deuxième Paris et troisième Joabi Saint-Etienne, un peu une surprise, ouais, pourquoi pas Saint-Etienne.
Ok, la descente.
Et après la descente, Joa Lens, vraiment ne pas s'en sortir, je le dis depuis le début de la saison. Je vois bien aussi un club comme Reims, je les sens pas trop, je sais pas pourquoi cette année, mais je les sens pas du tout. Et puis en troisième, peut-être Caen ou Guingamp, mais ouais, peut-être plutôt Caen.
Plutôt Caen. Allez, Luc.
Alors, je pense que ça va être compliqué entre Marseille et Paris. Si Marseille continue comme ça, sur ce rythme, ça va être compliqué d'aller chercher. Donc, j'irai quand même Marseille-Paris. Et moi, j'aime bien Bordeaux. Voilà. Si Bordeaux a les moyens de continuer comme ça, ils peuvent accrocher quelque chose. Ils peuvent accrocher une troisième place. Ils sont troisième pour l'instant, si c'est ce que tu
veux dire. Oui, je regarde, en fait, tu gardes le classement.
Exactement, je garde le classement.
C'est bien, c'est bien. Et qui c'est qui va descendre, Malik?
Je pense qu'Evian de Tournon Gaillard, à force de tourner autour, je pense qu'à un moment ça va être compliqué et je pense que cette saison ça va être très dur pour eux. Lorient me fait souci aussi. Je pense que le départ de Christian Gourcuff est un peu délicat à gérer pour eux. Et pour la troisième place, je dirais Lens. Je dirais Lens, sauf si l'actionnaire,
sauf si Tony Vérel revient et si
non, mais si l'actionnaire investit et qu'ils peuvent investir dans le mercato, ils peuvent s'en sortir, sinon ça va être très très compliqué.
Ok, allez, carton plein pour Marseille pour l'instant.
Ouais, donc bon, moi ça sera pareil que Patrick, donc je mets Marseille en premier et Paris juste un point derrière. Et puis pour faire plaisir à mes collègues mandois qui sont quasiment tous supporters de Saint-Etienne, je les mets quand même troisième Saint-Etienne.
Totalement démagogique cette émission, c'est affreux.
Non, mais c'est
comme toi, Patrick.
Affreux.
Vous avez le même pronostic tous les deux.
Voilà. Et alors pour les descentes, moi il y aura quand même une surprise. Donc je prévois quand même Evian, Tonon et Caen et qui finira dernier, je vois bien Saint-Jean-la-Fouillouse.
Qui n'est pas dans ce classement.
Ah, non, alors non. Du coup je vais mettre qui c'est que j'ai vu, c'est Reims qui sont là un peu par hasard, quoi.
T'aimes pas trop Reims. Allez, non. Ok, on va pas avoir carton plein. Paris champion cette année, Marseille deuxième, Lyon troisième, Montpellier quatrième, mais bon, ça rentre pas dans le pronostic vu que c'est que les trois premiers. Evian, Lens et Lorient. Ouais. Evian, Lens et Lorient qui descendent. On réécoutera cette émission en juin. En attendant, vous pouvez la podcaster dès cet après-midi sur 48fm.org. La réécouter mercredi 18h10. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel Instant Sport. Merci à tous d'être venus. Merci Fadil. Bonne suite avec l'AFL.
Merci à vous. Merci.
On continuera à parler de l'AFL et de tous les autres sports. Et on se retrouve donc lundi prochain. Salut.
et les Slick John au couloir en numéro 2. Allez, les
c'est parti pour les
Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.